Pour savoir tout, tout sur le sport, voici Olivier Beauregard.
Et on va jeter un coup d'œil avec lui à ce qui a marqué la dernière semaine sportive. Olivier, bonjour.
Salut.
Et Olivier, le ménage s'est poursuivi, on peut l'appeler comme ça, chez le Canadien, parce que là, ça a été au tour dans la dernière semaine de Stéphane Waite d'être remercié.
Oui, absolument. Ça s'est fait mardi soir pendant le match contre les Sénateurs d'Ottawa.
Ça, c'est comme ordinaire, hein, un pendant le match.
Ouais, hein? Écoute, c'est vraiment ordinaire. Puis c'est particulier parce que, bon, pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas nécessairement au courant de comment ça s'est déroulé, là, selon les dires de Marc Bergevin, le congédiement se serait fait entre la deuxième et la troisième période. Selon Marc Bergevin, on a fait ça dans le but de ne pas ennuyer ou de ne pas distraire les joueurs de l'organisation. Pendant le match, c'est ce qu'on nous a dit. Donc, ça permet à Stephen Waite de ramasser son matériel et de quitter pendant la troisième période. Mais écoute, Sébastien, là, honnêtement, là, tu l'as dit, ça n'a aucun bon sens. C'est tellement cavalier comme façon de faire. Je ne comprends pas c'était quoi l'urgence d'agir pendant le match. On aurait pu faire ça en soirée. On aurait pu faire ça le lendemain. Il n'y avait pas de match.
Non, il y en a plein des occasions possibles, autres que pendant un match qui dure 3 fois 20 minutes. Là.
Écoute, c'était tellement urgent qu'on a sorti un communiqué de presse après la rencontre, une fois que toutes les entrevues étaient faites. Puis moi, j'ai travaillé pour le Canadien de Montréal, puis je sais que tout est calculé au domaine des communications. J'ai travaillé pour ce département-là. Je sais exactement qu'est-ce qui est arrivé là, mardi soir. Mm-hmm. C'était déjà prévu, le communiqué était rédigé, puis on s'est dit, une fois que toutes les entrevues de vestiaire, l'entrevue du coach va être faite, on sort le communiqué, comme ça, il n'y aura pas de questions avant demain matin, puis on va avoir le temps de gérer ça à l'interne. Parce que, écoute, c'est ça qui est inusité là-dedans, c'est que Stephen Waite a appris ça pendant le match des Sénateurs. Lui, il était au boulot, puis on lui a dit, t'as 60 minutes, là, t'as une période de hockey pour ramasser tes affaires que t'as récoltées ici pendant quasiment 8 ans pour sacrer ton camp. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis, tu sais, Marc Bergevin a tenu à remercier Stephen Waite pour son service. Nous autres, ce qu'on entend depuis des années, c'est que Stephen Waite est l'un des meilleurs entraîneurs des gardiens dans la Ligue nationale. Carey Price et lui ont une relation hors pair. Et là, du jour au lendemain, tu procèdes au congédiement de Stephen Waite parce que, puis ça, on veut pas le dire, mais parce que Carey Price connaît un creux de vague. Puis c'est vrai, là. C'est vrai, honnêtement, Sébastien, que Price connaît pas nécessairement des bons moments. C'est vrai que c'est récurrent. Là. Il y a toujours des passages à vide depuis quelques années au courant des saisons. Par contre, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est est-ce que Carey Price pourrait assumer un petit peu ses mauvaises performances? Est-ce qu'on doit directement envoyer ça à Stephen Waite? Moi, c'est ça que je comprends pas. Je comprends pas comment ça s'est fait. Je comprends pas pourquoi on a fait ça aussi brutalement. Là, puis j'ai même pas peur du mot, brutalement. Je comprends pas la décision de l'organisation. Puis je comprends encore moins que là, on va congédier tout l'ensemble du coaching staff pour dire, ben, savez-vous quoi? C'est eux le problème. Ce ne sont pas les joueurs en place. Ce ne sont pas Carey Price, etc. Écoute, là, on va se parler dans le blanc des yeux, là. Puis je suis une des personnes qui n'a jamais ramassé Carey Price publiquement parce que pour moi, Carey Price, c'est un bon gardien de but. Mais honnêtement, là, il va vraiment falloir qu'il commence à prendre des responsabilités envers lui. C'est un gardien qui est payé très cher pour faire un boulot. Présentement, il ne fait pas. Est-ce que c'est la faute à Stephen Waite s'il ne fait pas son boulot? Je pense pas, parce que Stephen Waite lui a permis de remporter le Vezina, le Hart dans la même année. Fait que moi, qu'on me dise que c'est l'entraîneur des gardiens qui ne fait pas son travail alors que le gardien de but ne fait pas le sien, moi, je trouve que c'est un problème. Et ça me ramène au discours que je vous ai dit il y a quelques semaines. Tu peux t'as beau congédier tout le monde au sein d'une organisation de hockey. Au bout du compte, là, si les joueurs décident que ça ne fonctionne plus, si les joueurs abandonnent, t'as beau engager le meilleur entraîneur de l'histoire, le plus couronné, le plus médaillé, ça va rien changer. C'est ça la game, c'est ça la business. Puis, savez-vous quoi, il y a quelqu'un qui a dit cette semaine, dans le fond, là, quand t'es coach ou quand t'es directeur général d'une équipe, là, ben, tu contrôles plusieurs CPE. PME.
Ouais, pas même affaire.
C'est un lapsus, mais écoutez, ça pourrait...
Ça pourrait marcher, ça pourrait marcher.
Ouais, c'est ça. Non, mais plusieurs petites PME, puis c'est vrai, ces gars-là, là, ils jouent au hockey par passion, par plaisir également, mais oubliez pas une chose, là. Ce sont des gestionnaires, puis c'est drôle, ce qu'ils vendent, c'est eux, c'est leur performance à eux. Et c'est comme ça qu'on voit ça. Et c'est pas mal plus facile quand tu veux te vendre de jeter le blâme sur tout ce qui t'entoure plutôt que de te regarder dans le miroir. Puis ça, là, c'est malheureux. Puis j'espère honnêtement que Marc Bergevin, de la façon qu'il a agi avec Stephen White, c'est la seule fois, j'espère, qu'on entend qu'il y a eu un congédiement de la sorte, parce qu'honnêtement, c'est inhumain. Moi, je peux pas comprendre qu'un gars qui a donné autant d'années de service au Canadien de Montréal, qui a été fidèle à cette organisation-là, qui connaît Marc Bergevin depuis longtemps, là. Tu sais, c'est pas anodin quand Marc Bergevin est arrivé à Montréal puis qu'il a amené Stephen White, là. C'est deux gars qui travaillaient ensemble à Chicago. Ils ont remporté la Coupe à Chicago en tant que membre de l'organisation. À un moment donné, là, il y a des relations comme ça que tu te dois de faire attention. Puis je suis persuadé que Jeff Molson lui a pas dit « Tu me le congédies entre la 2 et la 3. » C'est vraiment important que ça se fasse là. Écoutez, ça a aucun bon sens. Je trouve ça cavalier. Je trouve que honnêtement, il n'y a pas de mots pour expliquer ça. J'espère vraiment que Marc Bergevin, là, s'est fait avertir. Je sais pas, mais j'espère qu'on va lui dire, écoute, ça se fait plus, là. Puis le pire, Sébastien, c'est qu'en point de presse hier, il a dit publiquement, donc je lui ai mentionné après la deuxième période parce que je voulais pas, justement, qu'il dérange les joueurs.
Ça marche pas. Fait,
congédiement, on amène Sean Burke. Sean Burke, qui travaille déjà pour l'organisation, mais à l'étranger, lui va s'amener à Montréal. Écoutez, si Carey Price connaît pas des performances rapidement, j'espère qu'on jettera pas la pierre sur Sean Burke. J'espère qu'on va peut-être juste dire, peut-être que le gardien devrait se regarder dans le miroir. Puis honnêtement, Carey Price a un besoin de gagner, là. Je vous le cache pas, là. Je pense que là, on est rendu à la croisée des chemins. Si Carey Price ne remonte pas la pente et ne connaît pas de très, très bonnes performances d'ici la fin de la saison et pendant les séries éliminatoires, je vous garantis que Carey Price va être sur le marché des transactions au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. J'en suis convaincu parce que présentement, il coûte trop cher pour ce qu'il rapporte. Puis c'est malheureux, là. Moi, là, il y a eu des discours comme ça depuis plusieurs années qui m'ont tapé ses nerfs, littéralement, là. Mais là, quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis, OK, là, c'est peut-être le temps de faire la croisée des chemins. Peut-être même que le Canadien ne le protégera pas pour le repêchage d'expansion, là. Peut-être qu'on va le laisser partir à Seattle si on n'est pas capable d'échanger Carey Price. Mais il y a une chose qui est sûre. Carey Price, s'il veut performer, s'il veut rester à Montréal, il va devoir performer. Puis dans le cas de Marc Bergevin, s'il veut garder son travail, il faudra qu'il trouve une façon de faire fonctionner Carey Price également. T'as beau entourer cette équipe-là, si le gardien laisse passer des mauvais buts, malheureusement, éventuellement, ça va faire mal. Puis écoutez, je pensais jamais dire ça, mais là, si je vous le dis, là, selon moi, Carey Price est sur la sellette à Montréal.
Sinon, autre sujet, plus heureux, plus joyeux, en fait, disons-le, c'est Marie-Ève Dicker là, qui va combattre, c'est dans quelques jours, c'est...
Ouais, ben c'est demain soir.
Demain.
Oui, c'est demain soir, puis écoute, c'est pas compliqué, Sébastien, c'est son plus gros test en carrière. Elle se bat pas contre n'importe qui, elle se bat contre une Américaine qui a connu énormément de succès. On parle de Clarissa Shields. Clarissa Shields a 10 victoires, aucune défaite depuis son entrée en boxe professionnelle, 2 KO. Aujourd'hui, c'était la pesée officielle au Michigan, et les deux filles ont respecté la pesée. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, tout est en place pour le combat. Mais il y a une chose qui est importante à retenir là-dedans. Je sais que c'est quand même technique là, au niveau de la boxe, mais c'est pas compliqué, là. Il y a 4 ceintures de cette catégorie-là qui sont à l'enjeu demain soir. C'est énorme. C'est vraiment énorme comme combat pour une Québécoise. C'est presque une première. Je pense même que c'est une première. Alors, Marie-Ève Ducaire, là, c'est pas battue depuis 13 mois. Ça va être un gros test parce que Shield, c'est une cogneuse, c'est une combattante, une vraie. Il y en a plusieurs présentement lorsque tu parles de Paris, là, qui voient même pas comment Dicker va pouvoir survivre les 10 rounds. Parce qu'on parle de 10 rounds de 2 minutes, là, pour les gens qui veulent savoir un peu comment ça va fonctionner. Et il y en a plusieurs qui pensent que Dicker ne passera pas le 5e round. Faut pas oublier, là. Dicker, c'est 17 victoires depuis son entrée chez les pros. Aucune défaite également. Alors, c'est vraiment un clash des titans, et c'est le fun, c'est vraiment le fun, puis c'est important de le souligner, parce qu'on a une Québécoise qui va aller se battre sur une scène, et qui est en train de donner quelques notes de noblesse à la boxe québécoise chez les femmes.
Et ouais, la boxe féminine, on n'en voit pas beaucoup de boxe féminine, du moins, on la présente moins. Là.
Exactement, là, peut-être que ça va prendre une certaine popularité avec Kim Clavel, qui est à Big Brother célébrité, là, mais je veux dire, t'as une Marie-Ève Dicker qui connaît beaucoup plus de succès que Kim Clavel, sans rien lui enlever. Et que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors, c'est important. Puis pour les gens qui sont amateurs de boxe, la boxe féminine, c'est un très, très beau sport également. Là. C'est pas juste chez les hommes que c'est beau. Chez les femmes, c'est un très beau sport de combat également. ce sont des machines. Moi, je vous le dis, il y a pas mal d'hommes qui auraient de la misère dans un ring avec une boxeuse professionnelle. J'ai même pas de misère à vous le dire. Alors, bon combat demain soir. Ça pourrait passer à l'histoire, ce combat-là. C'est la carte, je crois que ça débute aux alentours de 21h. Alors, je m'attends à un combat du quart aux alentours de 22h. Et ça risque d'être pas mal intéressant.
Sinon, ben, tu voulais glisser quelques mots aussi sur la reprise du sport là au Québec.
Ben, écoutez, l'annonce du premier ministre François Legault cette semaine qui a lancé toutes les zones, pratiquement en zone orange, là, à l'exception de la région du Grand Montréal, ça pousse la réflexion à dire, ben, j'espère que la reprise graduelle du sport va être en, disons, en modèle accéléré. Puis je vous explique pourquoi. Il y a eu beaucoup d'athlètes du monde du sport. Je pense à Michael Kingsbury, qui est double champion, qui est médaillé d'or aux Jeux olympiques également, mm-hmm. qui lui dit, hey, écoutez, là, moi, là, si le sport avait été arrêté, là, probablement que mon parcours de vie aurait jamais ressemblé à ça. Il a écrit une lettre directement au premier ministre François Legault. Ça a eu des répercussions énormes. Il y a Jonathan Marchessault également qui est attaquant des Golden Knights de Las Vegas, mm-hmm. qui lui également s'est adressé directement au gouvernement québécois en disant « Trouver une façon de raccrocher nos jeunes au sport, c'est vraiment important. Ça, c'est une partie prédominante de leur vie. » Et je ne peux pas être plus d'accord, Sébastien. Là, je comprends qu'on est dans une situation de pandémie, je comprends qu'on est dans une situation d'exception. Mais honnêtement, les jeunes, là, pour moi, ce sont les véritables héros de la dernière année, Sébastien. Là. Oui, il y a tout le personnel médical, puis j'enlève rien à ça, mm-hmm. mais tu sais, tu as déjà eu 15 ans, Sébastien. Là. Cet âge-là est tellement important. C'est tellement un point important de ta vie, culminant de ta vie, et tout fait partie de ça. Le social, l'école, les amis, etc. Tout ce que tu peux faire a un impact sur ta vie future et le sport en fait partie grandement. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai joué au sport au secondaire, puis je vous dirais que la moitié des gens qui étaient là dans les équipes sportives auxquelles j'ai fait partie n'auraient pas resté à l'école s'il n'y avait pas eu justement des équipes sportives. Puis ça les a amenés au cégep, puis il y en a même que ça les a amenés à l'université mm-hmm. après. Des gars qui n'avaient même pas pensé à ça. Mais le sport peut faire réaliser des choses comme ça. Puis je te parle même pas de performance, là.
Non, juste de pratiquer une activité physique.
Exact. Là. Exactement. Ça a un bien-être incroyable, pas seulement physique, mais sur ton futur, sur ton avenir. Alors, j'espère vraiment qu'on va se pencher sur cette situation-là parce que c'est une année difficile que les jeunes viennent de vivre. Une année où on leur demande de cesser leur rythme de vie puis de... Dans le fond, cesser les années où tu n'as pas beaucoup de choses à soutenir à part que l'école et les activités mm-hmm. que tu fais. Un moment donné, ça serait le fun qu'on pense à eux puis qu'on pense à un plan concret pour les remettre dans les sports collectifs. Puis j'espère qu'on va faire ça rapidement. J'espère que ça va être fait d'ici le printemps parce qu'on a besoin de nos jeunes actifs, on a besoin des jeunes allumés puis on a besoin des jeunes heureux, tout simplement.
Olivier Beauregard, c'était les mots de la fin pour cette chronique d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, encore une fois.
Un plaisir, merci, bye bye.